5. Je rêvais souvent de radar, mais le soir après que Kla avait expédié Ayota au tapis, je rêvais de la princesse Léa. Elle portait une robe rouge style empire qui soulignait sa poitrine. Des chaussures assorties, aux boucles incrustées de diamants, pointaient le bout de leur nez sous l'ourlet. Ses cheveux étaient retenus par un collier de perles entortillées de manière complexe. Un médaillon en or, en forme de papillon, reposait sur le renflement de ses seins. J'étais assis à côté d'elle, vêtue non pas des habits que je portais lors de mon arrivée à Empis, avec ma chienne mourante, devenue des haillons, mais d'un costume sombre et d'une chemise blanche. Le costume était en velours, la chemise en soie. J'étais chaussé de grandes bottes en daim à revers, comme celles des mousquetaires de Dumas sur une illustration de Howard Pyle. Sans doute provenait-elle de la collection de Dora. Falada broutait paisiblement à proximité, pendant que la servante à la peau grise de Léa la bouchonnait. On se tenait par la main en contemplant notre reflet à la surface d'une étendue d'eau immobile. J'avais les cheveux longs et dorés, mais quelques boutons d'acné avaient disparu. J'étais beau, et Léa était belle, d'autant qu'elle avait retrouvé sa bouche. Un petit sourire retroussait ses lèvres. Des fossettes avaient remplacé la petite lésion au coin de la bouche. Bientôt, si le rêve se poursuivait, j'embrasserais ses lèvres rouges. Car même endormi, je reconnaissais dans ce songe la dernière séquence d'un film de Walt Disney. D'une seconde à l'autre, un pétale de fleur allait tomber dans l'étang, rider la surface de l'eau et faire onduler nos reflets alors que se rejoignaient les lèvres du prince et de la princesse sous un flot de musique. Aucun nuage noir ne viendrait gâcher cette fin parfaite. Une seule chose paraissait déplacée. La princesse Léa tenait sur les genoux de sa robe rouge un sèche-cheveux violet. Je le connaissais bien, même si je n'avais que 7 ans quand ma mère était morte. Toutes ses affaires utilitaires, y compris ce sèche-cheveux, avaient fini dans une association caritative, car mon père affirmait que son cœur se brisait chaque fois qu'il posait les yeux sur ce qu'il appelait ses trucs de femme. Ça ne me gênait pas qu'il donne presque tout. J'avais juste voulu garder son sachet de peau pourrie et son miroir à main. Papa n'y avait vu aucune objection. Ils étaient encore posés sur ma commode à la maison. Maman appelait ce sèche-cheveux le pistolet laser violet de la mort. J'ouvris la bouche afin de demander à Léa pourquoi elle avait le sèche-cheveux de ma mère, mais sa servante ne m'en laissa pas le temps. « Aide-la !» Je ne sais pas comment faire. Léa me sourit avec sa nouvelle bouche parfaite et caressa ma joue.
« Tu es plus rapide que tu ne le crois, prince Charlie. »
Je voulus lui expliquer que je n'étais pas rapide, loin de là. Voilà pourquoi je jouais défenseur au football et première base au baseball. Certes, j'avais fait preuve d'une jolie pointe de vitesse lors du Turkey Bowl contre Stanford, mais il s'agissait d'une brève exception, alimentée à l'adrénaline. Mais là encore, avant que je puisse prononcer un mot, quelque chose me frappa en plein visage et je me réveillai en sursaut. C'était un steak. Rikiki, à peine 2 ou 3 bouchées. Percy poussait son chariot dans le couloir d'un pas traînant en lançant des morceaux de viande dans les cellules.
« Il me reste ! Il me reste !»
braillait-il. Sans doute ne pouvait-il pas faire mieux pour dire « Qui veut des restes ?» Amer ronflait dans son coin, épuisé par la récréation et l'habituel combat qu'il livrait après chaque repas pour vider ses intestins. Je pris mon petit morceau de viande, m'assis par terre, adossé au mur de ma cellule, et mordit dedans. Quelque chose craqua sous mes incisives. Je découvris un morceau de papier, pas plus grand que les messages contenus dans les Fortune Cookies, glissé dans la viande. Je le sortis, d'une fine et belle écriture cursive, signe d'une personne éduquée, il était écrit « Je vous aiderai si je le peux, mon prince. » Il est possible de quitter cet endroit en passant par la salle des officiels. Mais c'est dangereux. Détruisez ce message si ma vie vous importe. Votre dévoué, Perceval. Perceval, songeai-je. Pas Percy, mais Perceval. pas un larbin à la peau grise, mais un homme véritable avec un véritable nom. Je mangeai le papier. 6. Le lendemain, on eut des saucisses au petit déjeuner. On savait tous ce que ça signifiait. Ahmet posa sur moi un regard triste, accompagné d'un sourire. Au moins, je serai débarrassé de ces foutues douleurs au ventre. Fini les efforts pour chier. Tu veux ma part ? Non. Mais je pris quand même le chapelet de 4 saucisses qu'il me tendait, en espérant qu'elles me fourniraient des forces supplémentaires. Elles pesèrent sur mon estomac comme un sac de plomb. De l'autre côté du couloir, Kla me regardait. Non, erreur. Il me matait. Ayota m'adressa un haussement d'épaule qui semblait dire « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Je répondis de la même manière « Oui, qu'est-ce que j'allais faire ?» Puis ce fut l'attente. On n'avait aucun moyen de calculer le temps, mais cela ne l'empêcha pas de ralentir. Frémy et Stux se tenaient côte à côte dans leur cellule. Frémy dit
« Tant qu'ils nous mettent pas l'un contre l'autre, ça ira, mon vieux. »
J'étais prêt à parier qu'il le ferait, par cruauté. Il s'avéra que je me trompais, sur ce plan du moins. Juste au moment où je commençais à croire que ça ne serait pas pour ce jour-là, finalement, 4 soldats de la nuit firent leur apparition, emmenés par Aaron. Il était toujours présent sur le terrain durant la « récréation », à agiter sa badine comme un chef d'orchestre, mais c'était la première fois qu'il descendait à Deep Maline depuis qu'il m'avait conduit auprès du grand intendant et fait visiter la salle de torture, évidemment. Les portes des cellules glissèrent sur leurs rails rouillés.
« Dehors, dehors, petit !» Ce sera une belle journée pour la moitié d'entre vous, une très mauvaise pour les autres.
On sortit de nos cellules, tous à l'exception d'un homme frêle au crâne dégarni nommé Hacha.
Je peux pas, je suis malade.
Un des soldats s'approcha de lui, mais Aaron le repoussa d'un geste. Il franchit le seuil de la cellule que Hacha partageait avec un type beaucoup plus costaud, nommé Quilly, originaire de Disc. Quilly recula aussitôt, mais l'aura d'Aaron le frôla et il poussa un petit cri de douleur en se tenant le bras.
« Tu es Hacha et tu viens de cet endroit qu'on appelait autrefois la citadelle. C'est bien ça. »
Hacha hocha la tête tristement.
Et tu es malade. Les saucisses, peut-être.
Peut-être,
répondit Hacha sans détacher les yeux de ses mains nouées et tremblantes.
C'est possible.
Pourtant, je vois que tu as tout mangé sauf la ficelle.
Hacha ne dit rien.
Écoute-moi, petit. C'est le un contre un. Ou la Vierge de Fer. C'est moi qui choisirai la durée de ta visite à cette dame, et ce sera long. Je refermerai la porte lentement. Tu sentiras les pointes de fer toucher tes paupières en douceur. Avant qu'elle les transperce, et le ventre, moins tendre que les yeux, mais quand même, les saucisses mal digérées dégoulineront pendant que tu hurles. Alors, que dis-tu de ça ?
Hacha grogna et sortit de sa cellule en trébuchant.
« Formidable ! Nous voilà au complet !»
s'exclama Aaron.
« Que les jeux commencent ! Du nerf, petit ! Allez, allez, allez ! On va bien s'amuser !»
On se mit en route. Alors qu'on attaquait le long escalier qu'on avait gravi tant de fois, en sachant désormais que seule la moitié d'entre nous reviendrait, je repensais à mon rêve. À Léa, disant « Tu es plus rapide que tu ne le crois, prince Charlie. » Je n'avais pas cette impression. 7. Au lieu de nous conduire directement sur le terrain, on nous fit entrer dans le vestiaire qu'on utilisait après l'entraînement. Mais aujourd'hui, le grand intendant était là, magnifique dans son uniforme de cérémonie bleu, presque noir à l'intérieur de son aura, chargé à bloc pour l'occasion. J'étais curieux de savoir d'où venait l'énergie qui alimentait ces enveloppes lumineuses, mais cette question ne faisait pas partie de mes préoccupations immédiates. Sur l'étagère où s'alignaient précédemment 31 seaux d'eau pour qu'on puisse se laver après la récréation, il n'y en avait plus que 16, car la moitié d'entre nous seulement aurait besoin de se laver après les festivités du jour. Devant l'étagère, sur un chevalet, était posé un grand panneau d'affichage en haut duquel on pouvait lire « 1-1, premier tour ». Et dessous, la liste des duels. Je m'en souviens parfaitement aujourd'hui encore. Je crois que dans ce genre de situation, un individu se souvient de tout ou de rien. Pardonnez-moi de citer encore des noms, mais il le faut, ne serait-ce que pour rendre hommage, même brièvement, à mes compagnons de détention.
« Vous avez devant vous l'ordre des combats, » dit Kellyn. « Je compte sur vous tous pour offrir un spectacle de qualité à Sa Majesté Eldon. C'est bien compris. »
Nul ne répondit.
« Il se peut que vous soyez opposé à quelqu'un que vous considérez comme votre ami, mais sachez que l'amitié ne compte plus à partir de maintenant. Vous allez livrer des combats à mort. À mort. Si vous dominez votre adversaire sans le tuer, cela ne fera qu'entraîner une mort plus douloureuse encore, pour l'un comme pour l'autre. C'est bien compris ? »
Cette fois, ce fut Kla qui répondit
« Ouais ».
En disant cela, il me regarda et fit glisser son pouce sur son cou épais, en souriant.
« La première manche va bientôt débuter. Préparez-vous. »
Il s'en alla. Les autres soldats de la nuit lui emboîtèrent le pas. On examina le tableau en silence. 1-1, premier tour. Premier groupe. Frémy, Murph. Jaya, Amé. Amit, Whale. Deuxième groupe. Yano, Frid. Jaka, Ayota. Messel, Sam. Troisième groupe. Tom, Bolt. Domi, Kamit. Bendo, Dash. Pause déjeuner. Quatrième groupe. Double, Eva. Stooks, Hatcha. Pag, Quilly. Cinquième groupe. Bernd, Gully. Hilt, Oka, Eris, Viz. Sixième groupe, Kla, Charlie. J'avais déjà vu des tableaux semblables, à la télé bien sûr, durant les Selection Sundays de la NCAA, mais en vrai, quand étaient annoncées au printemps les rencontres du tournoi Arcadia Babe Ruth sur des affiches sur tous les terrains des équipes participantes. Tout cela était déjà très étrange, mais l'élément le plus surréaliste, c'était assurément ces deux mots au milieu, pause déjeuner. Flight Killer et sa suite allaient regarder 9 prisonniers s'entretuer avant de s'offrir une collation.
Qu'est-ce qui se passerait si on refusait tous de se battre ?
Demanda Amit, d'un ton pensif auquel je ne m'attendais pas de la part d'un type qui donnait l'impression d'avoir gagné sa croûte autrefois en ferrant des chevaux, en les assommant d'un coup de poing s'ils refusaient de coopérer.
Simple question.
Oka, un balèze qui plissait les yeux à la manière des myopes, éclata de rire.
Tu veux faire la grève? Comme les meuniers du temps de mon père? Et priver Fly Killer de sa distraction du jour? Je crois que je préfère vivre jusqu'à demain plutôt que de hurler de douleur toute la journée. Alors sans façon.
Je songeais qu'Oka vivrait certainement jusqu'à demain, en effet, étant donné qu'il devrait affronter Hilt, un type maigrelet avec une hanche de traviole. Oka mourrait peut-être au deuxième tour, mais s'il l'emportait aujourd'hui, il pourrait se laver ensuite et dîner ce soir. En regardant autour de moi, je perçus le même calcul sur de nombreux visages, mais pas sur celui de Hamet. Après avoir jeté un coup d'œil au tableau, il était allé s'asseoir sur un banc, tête baissée. Je détestais le voir ainsi, mais je détestais mille fois plus ceux qui l'avaient placé dans cette terrible situation. Je reportai mon attention sur le tableau. Je m'étais attendu à voir Frémy affronter les Stooks et les deux femmes, Jaya et Eris, opposées l'une à l'autre. Un combat de filles, qu'y avait-il de plus amusant, hein? Eh bien, non. Apparemment, les duels n'avaient pas été choisis. Peut-être avait-il été tiré au sort dans un chapeau, exception faite du dernier, évidemment. Rien que nous deux, sur le terrain. Le grand final du jour. Kla contre Charlie.